Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Nous avons laissé Talleyrand donc embauché par Bonaparte qui était devenu premier consul. En parlant de lui, Charles Maurice, donc je vous rappelle que c'est le prénom de Talleyrand, hein, dit, en parlant donc de Bonaparte, « S'il passe une année, il ira loin. » Il pense que Bonaparte, c'est la seule garantie. Pour lui, la République n'a été qu'un expédient fâcheux. Il est resté tout à fait monarchiste dans l'âme. Oui, mais alors quelle monarchie? Parce qu'il y en avait une quand même, les Bourbons. Eh bien, ses intérêts seraient vraiment menacés si les Bourbons revenaient. Donc, Louis XVIII, enfin le futur Louis XVIII, pour l'instant le frère de Louis XVI, qui est à l'étranger, hein, il ne peut pas souffrir Talleyrand, et Talleyrand, c'est bien la vérité. Alors, autour du Premier Concile, il y a deux courants. Il y a ceux qui souhaitent que son pouvoir soit limité à 10 ans, et puis les autres, qui demande un consulat à vie, voire plus. Fouché, je vous rappelle ce que Fouché, je vous ai raconté sa vie, hein, c'était donc le ministre de la justice, de la police, pardon. Il soutient le premier parti, et Talleyrand, évidemment, soutient le second. Dès son établissement, donc, Charles Maurice a ouvert ses salons à Neuilly, où il convie des personnes des deux mondes, c'est-à-dire des révolutionnaires qui se sont assagis, mais aussi la noblesse de l'Ancien Régime, par exemple Coigny, La Rochefoucauld, Liancourt, Vergennes, Castellane, Noailles, Aiguillon, Caumont. Ce que le premier consul voit avec plaisir, parce qu'il se dit « comme ça on va réconcilier tout le monde ». 1801, Napoléon, qui n'est pas encore empereur, rétablit le culte en France. Il pense même demander à Rome que Talleyrand soit pardonné et rentre dans sa fonction ecclésiastique avec peut-être même un chapeau de cardinal. Ça ne fait pas du tout l'affaire de Talleyrand, ça. Et pourquoi est-ce que Napoléon pense ça? Parce qu'il veut l'empêcher d'épouser Madame Grand, une Anglaise tout à fait sotte, mais tout à fait belle. Eh bien oui, le Charles Maurice, lui, vraiment, il est à mille lieues de la solution de rentrer dans l'Église. Ce qu'il veut, lui, c'est être rendu au siècle et épouser Madame Grand, c'est-à-dire Catherine. Alors il parvient à dissuader le consul de faire cette proposition-là au pape. Et heureusement, car ce dernier aurait été bien embarrassé, et puis de toute façon, un refus ne faisait pas de doute. Alors contre une nomination épiscopale par le consul, l'oubli de la nationalisation des biens du clergé, là, le catholicisme donc est reconnu comme religion d'État. Talleyrand essaie bien de faire admettre un petit codicille relatif aux prêtres qui se sont mariés, évidemment, et qu'il pense à lui, hein. Et le pape, lui, ne veut pas en entendre parler. Alors on signe un concordat, le concordat est signé, et finalement Talleyrand, beau joueur, ne dit rien, mais il écrit au pape, le pape qui à l'époque s'appelle Pie VII, pour régler sa situation personnelle. Il lui demande d'être délié de toutes ses obligations religieuses et d'être rendu à ce qu'on appelle la communion laïque. Et Bonaparte le soutient. Alors après bien des lettres, le pape consent à ce que Talleyrand soit rendu à l'état laïque, qu'il porte un habit civil, qu'il ait des fonctions publiques, mais, dit-il, on n'a jamais vu un évêque consacré se marier. Alors le premier consul fait paraître sous sa signature donc une note dans le journal, le Moniteur, et où il dit « Le pape Pie VII a rendu à la vie séculière le citoyen Maurice de Talleyrand-Périgord avec son entier effet Et ces quatre mots-là n'étaient pas du tout dans la lettre du pape, mais elle est dans ce que met Napoléon. Alors Charles Maurice saute dessus, bien sûr, et il épouse Madame Grand. Eh bien, on est surpris qu'un homme si fin n'ait pas compris que ces hommes d'église, finalement, ont tout fait pour empêcher ce fils infidèle de faire la sottise qu'il regrettera toute sa vie. 1802, c'est la paix en Europe, signée à Amiens. Elle met fin à 10 ans de lutte avec la France. Cette dernière déborde encore de ses frontières naturelles. Elle exerce sa loi sur l'Italie, sur la Suisse, sur la Hollande, sur les États allemands et sur la rive droite du Rhin. La France exerce sur ces territoires une sorte de protectorat qui lui assure des marches. Les marches, ce sont les pays qui sont frontaliers, hein, qui font d'elle finalement un empire. Alors Talleyrand, lui, il sait bien que l'Europe, c'est-à-dire tous les autres pays, quand on dit les autres pays, ce sont l'Autriche, c'est la Russie, c'est la Prusse, c'est l'Angleterre, ils sont mortifiés, ces pays-là, parce qu'ils se sont inclinés, parce que quand même Napoléon était un grand stratège, mais ils attendent une revanche. Eh bien lui, Talleyrand, il prône une politique de modération. Il dit que si des ennemis nous guettent, il faut mettre tous nos soins à ne pas leur fournir de motifs pour reprendre les armes. Il faut s'abstenir de tout geste qui pourrait faire croire à une reprise des visées expansionnistes. Il veut, si je résume, il veut modérer Napoléon. Un territoire occupé par nos troupes, c'est le Piémont, qui a été enlevé au roi de Sardaigne en 1798, par Bonaparte, hein. En 1802, ce Piémont est annexé à la France. Eh bien, Talleyrand, dans ses mémoires, prétend qu'il a essayé d'empêcher le fait. L'embêtant, c'est qu'on ne trouve aucune trace de son intervention. L'occupation persistante des Pays-Bas aussi et les acquisitions coloniales font que l'Angleterre rompt la paix d'Amiens. Ce qui est vrai, c'est qu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment, Talleyrand a essayé d'empêcher la rupture avec l'Angleterre. Il aime bien l'Angleterre, même si l'Angleterre ne l'aime pas beaucoup. Mais bon, puisque l'Angleterre veut la guerre, eh ben il faut la lui faire. Alors Charles Maurice accepte la politique impérialiste de Bonaparte. Il a besoin de garder sa place, beaucoup moins par ambition que par passion de l'argent, qui sera toujours l'un des ressorts primordiaux de sa vie. Aucun ministre n'a plus que Talleyrand fait argent de ses fonctions, de ses actes, de ses gestes, de ses succès, et jusque dans ses déboires. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas. Deux grandes idées le guident. Ne pas demander l'aumône, ne pas être dans la dépendance continuelle. Alors, contrairement à Fouché, hein, qui était un peu avare, lui, il n'y a aucune avarice dans sa cupidité. En fait, il dit que l'or est fait pour rouler. Il lui faut de l'or pour ses plaisirs, le luxe, l'assurance de dominer partout. Sur les moyens, il n'a aucun scrupule. Mirabeau a dit de lui, il vendrait son âme. Et Napoléon, vous vendriez votre père. Sous le directoire, il a fait comme tout le monde, il s'est enrichi par tous les moyens. Il touche des commissions. Par exemple, il va toucher 2 500 000 pour le traité de commerce avec les États-Unis.
Thank you.
Nous parlions donc de l'argent que Talleyrand met dans ses poches pour n'importe quelle action. Il vient donc d'avoir une somme assez importante pour son traité avec les États-Unis, le traité de commerce. La terreur qu'inspire à l'Europe l'ambition de Bonaparte est pour son ministre d'un revenu incalculable. Il a persuadé l'étranger qu'il exerce sur ce terrible consul une influence, en fait, 10 fois plus considérable que dans la réalité. Et il se fait payer en conséquence. En 1813, Napoléon dira à Molé, Talleyrand, et certainement, la personne ne l'ignore, l'homme du monde qui a le plus volé. En fait, Talleyrand se ruine sans cesse, parce que il donne de telles fêtes qu'il est obligé de vendre ses 2 hôtels, et à la place, il achète un hôtel à Neuilly, où les réceptions sont somptueuses. Et puis, il joue énormément. Il joue un jeu d'enfer. Alors, il dit qu'il lui manque quand même encore une propriété seigneuriale. Le premier consul lui dit « Je veux que vous achetiez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps diplomatique et les étrangers marquants, qu'on ait envie d'aller chez vous, et que d'y être prié soit une récompense » pour les ambassadeurs. Alors, il cherche et il trouve. C'est le domaine de Valençay. Et ce domaine de Valençay, finalement, il va être presque entièrement payé par Bonaparte, pas par Talleyrand, bien sûr. L'acte de vente est passé le 17 floréal de l'an 10, c'est-à-dire le 7 mai 1803. Il va y venir tous les étés. La place est donc bonne, Talleyrand souhaite s'y maintenir. Il est l'un des premiers qui ont rêvé de transformer le siège de consul en trône. Et il y travaille depuis 4 ans. Il pense que tant qu'il y a une république, le retour des Bourbons est possible. Et Talleyrand n'y tient pas vraiment. Il craint les retombées. Alors dès la fin de 1803, il prépare l'Empire. Et Talleyrand est trop intelligent pour ne pas voir que le régime auquel il pense ne sera solidement constitué que par l'adhésion des anciens partisans de la Révolution. Alors, convaincre les répugnances de ces républicains, pour les convaincre, il faut que Napoléon leur donne des gages. Ils hésitent à exister quelque chose de définitif. Eh bien, c'est Talleyrand, écoutez ça, dont les pères ont jadis fidèlement servi les Bourbons. C'est Talleyrand, donc, qui va froidement y conduire Bonaparte à ce geste qui va le couper définitivement des Bourbons. Ça va être l'exécution d'un Bourbon. Le vieux prince, donc, Talleyrand, dit « Cet assassinat ne pouvait être ni excusé, ni pardonné, et il ne l'a jamais été. » Mais on croit rêver parce que c'est lui qui en est à l'origine. Aucun chapitre de l'histoire de cette époque n'a été mieux étudié que le tragique épisode. Il y a même un érudit consciencieux qui s'appelle Boulet de la Meurthe, qui a constitué des milliers de documents et qui a publié 3 tomes intitulés « Documents relatifs à la mort du duc d'Enghien ». Tous les historiens sont d'accord sur un point. C'est Talleyrand qui a suggéré, formellement conseillé et activement préparé est présenté comme une nécessité, non seulement l'arrestation, mais l'exécution du prince. Le 1er mars, Talleyrand signale à Bonaparte la présence du duc d'Enghien, un Bourbon, donc petit-fils du prince de Condé, donc la présence de ce prince dans le grand-duché de Bade, à quelques lieues de Strasbourg. Et Talleyrand ose affirmer que ce prince conspirerait et voudrait agiter l'Alsace, sa voisine. C'est complètement faux. Il aurait des liens avec les complots qui se font à Paris. Il s'entendrait avec Dumouriez le vainqueur de Valmy qui est passé à l'ennemi. Pour les consulter, Napoléon réunit donc Cambacérès, Fouché, Murat et Talleyrand. Et ce dernier conseille de faire du duc un exemple éclatant. Il ne déplaît pas à Talleyrand que le futur empereur, justement, creuse entre les Bourbons et lui un fossé absolument sanglant. Barras écrit « Talleyrand a voulu mettre entre les Bourbons et Napoléon un fleuve de sang. Et c'est la vie de Talleyrand qui l'emporte. Le duc est enlevé le 15 mars 1804. Il est incarcéré à Vincennes, traduit devant une commission militaire et exécuté dans la nuit du 20 au 21. Aux gens émus de ce drame, Talleyrand répond « Eh bien quoi, ce sont les affaires !» Horrible, hein ? 16 mai 1804, 26 Floréal de l'an 12. Le Sénat, donc l'une des assemblées, proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français. Des Français, pas de France. Hein. Talleyrand obtient des cours de l'Europe, sauf du Tsar, la reconnaissance du nouvel empereur. Sous sa plume, Charles Maurice retrouve des formules monarchiques. Il dit « Majesté » et non plus « citoyen ». Lui-même devient « Excellence » parce qu'il est grand chambellan et il reçoit le grand aigle de la Légion d'honneur. Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur à Notre-Dame par le pape qu'il a fait déplacer par Pie VII. Le peintre David donc a fait un tableau de ce couronnement et il n'a pas oublié d'y mettre Talleyrand. Alors, puisque le pape est sur place, bien Talleyrand le rencontre et Pie VII veut bien le recevoir. Monseigneur le ministre des Relations extérieures, mais en aucun cas il ne veut recevoir sa femme. Cette petite blessure n'est rien face à la situation tous les jours plus belle que les événements créent pour le ministre. Cependant, il lui faut prendre parti de la situation. Je vous ai déjà dit qu'il a des idées modérées, modératrices. La guerre contre l'Angleterre, qui le contrarie beaucoup, est une guerre à outrance. Pire, c'est la guerre contre l'Autriche qui va avoir lieu et la coalition avec la Russie. Alors, il a beau essayer de tempérer les ardeurs de Bonaparte, mais celui-ci, n'est-ce pas, il ne veut pas en démordre. Alors, j'allais dire pour plaire à l'empereur, c'est pas trop ça finalement, c'est pour garder sa place, une place juteuse, qu'il prépare un réquisitoire contre l'Autriche. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de Talleyrand. Talleyrand qui, bien qu'ayant des idées modérées, finit par être de l'avis de l'empereur, non pas parce que finalement il comprend l'empereur, mais surtout c'est parce qu'il veut garder sa place. Alors il a préparé un réquisitoire contre l'Autriche. Il veut alors que la France s'allie avec quelqu'un pour combattre l'Autriche, s'allie avec la Prusse. Ben, la Prusse, non, elle ne le souhaite vraiment pas. Alors Talleyrand se fâche et dit qu'elle reste donc dans sa petitesse, cette Prusse. En attendant, donc, on déclare la guerre à l'Autriche et l'Autriche est vaincue. Alors Charles Maurice adresse un mémoire à Napoléon, un mémoire extrêmement clairvoyant. À ses yeux, il est préférable, dit-il, de faire une paix avec l'Autriche et de faire une paix sans douleur. Parce que si la paix est sans douleur, après, ça va ouvrir la voie à une alliance définitive avec cette Autriche. Il faut être modéré dans la victoire, dit-il. En ménageant l'Autriche, on s'en fera une alliée fidèle et solide contre les menées de la Russie, de l'Angleterre et de l'Empire ottoman. Alors Napoléon reçoit le mémoire, il est à Munich, et au moment où Ulm vient de capituler et qu'il s'apprête à marcher sur Vienne. Eh bien, entraîné par sa victoire, l'empereur est de moins en moins disposé à ménager le vaincu. Talleyrand s'inquiète et il part pour Vienne. Ah ben oui, mais Napoléon est parti. Il est déjà à 40 lieues. Et c'est la fameuse victoire d'Austerlitz, le jour anniversaire du sacre, 2 décembre 1805. C'est une telle victoire pour la France que l'empereur, François II, l'empereur d'Autriche, court solliciter la paix. Le 5 décembre 1805, Talleyrand écrit à Napoléon et lui rappelle le mémoire. Ce que Charles Maurice suggère mérite d'être examiné. Adoptée par l'empereur, la solution aurait orienté l'Europe vers une paix durable. Ben oui, mais c'est que le malheur, c'est que Napoléon, il est dans des dispositions peu favorables. Forcément, il gagne tout le temps. Il a toujours rencontré l'Autriche en face de lui. Il trouve que c'est la plus opinée des ennemis. Il aurait fallu passer l'éponge. Ben oui, mais il faut récompenser les alliés allemands, et puis fortifier l'Italie. Si bien que la principale bénéficiaire de cette paix, pour l'instant, c'est la Prusse qui a aidé Napoléon. Pourtant, la Prusse, elle s'est mise dans un cas pendable. Parce que dans le dos de Napoléon, pour le futur, elle s'est alliée avec la Russie par un traité qu'on appelle le traité de Potsdam. Et en même temps qu'elle a proposé à Napoléon sa médiation. Alors on envoie un émissaire à l'empereur qui le renvoie à Talleyrand à Vienne. Ce dernier reçoit le ministre prussien le 3 décembre et se fait un plaisir de lui annoncer l'écrasement bien sûr des alliés à Austerlitz. Alors l'émissaire prussien il a peur, relèvement de l'Autriche, Talleyrand s'arrangerait bien pour abaisser la Prusse. L'envoyé qui s'appelle Haugwitz, bien embarrassé, attend dans l'angoisse le retour de Napoléon à Vienne. Napoléon arrive. Il commence à faire grand peur aux Prussiens, parlant d'une alliance avec l'Autriche, que finalement il rejette. Et brusquement, il propose une alliance définitive à Haugwitz qui, le 15 décembre, signe tout ce que veut l'empereur. Alors Talleyrand est doublement déçu, parce que l'Autriche est punie, on amnestie la Prusse et on se prépare à ménager la Russie. La politique napoléonienne prend la tournure la plus propre à heurter les idées de son ministre. Mais comme toujours, celui-ci s'incline. Mais c'est à partir de ce moment-là quand même que Talleyrand, en spectateur plein de réprobation, assiste avec amertume aux événements qu'il est censé diriger. 1806. L'ambassadeur d'Autriche à Paris écrit que tous les ministres étrangers s'empressent chez Talleyrand. Son prestige est grand. Napoléon va lui donner d'ailleurs une marque de faveur éclatante. Au lendemain d'Austerlitz, il donne Naples à son frère Joseph Bonaparte, Pontecorvo à Bernadotte, et il reste un territoire qui s'appelle le Bénévent. Il le donne à Charles Maurice de Talleyrand, qui devient prince de Bénévent. Alors ce n'est pas un simple titre de noblesse, parce qu'il y a possession et c'est transmissible à ses enfants légitimes ou naturels. Les félicitations affluent, le prince n'aura jamais la fantaisie, lui, d'aller visiter sa propriété. Il l'administre de loin, parce qu'elle lui rapporte des sous. Napoléon veut faire la paix alors avec l'Angleterre, à qui il cède Malte et même le Hanovre, qui a été donné à la Prusse, pour la dédommager. Alors pourquoi le Hanovre? Je vais vous faire un petit rappel d'histoire. La dernière reine en 1717, la dernière reine d'Angleterre, c'était Anne Stuart. Anne Stuart, elle n'avait pas d'enfant. Donc on a cherché qui pouvait bien lui succéder et on a trouvé un petit-fils de Jacques Ier, c'est-à-dire pour elle un cousin issu de Germain. Et qui c'était ce petit-fils? C'était Georges de Hanovre. Donc on est allé chercher ce Georges de Hanovre, qui est devenu roi d'Angleterre, ne parlant pas un mot d'anglais, passant son temps d'ailleurs à manger des huîtres et à boire du vin du Rhin. Donc ce Hanovre, il avait été donné à la Prusse, et on dit à ce moment-là à l'Angleterre, bon, bah, écoutez, si on veut s'allier ensemble, on vous redonne le Hanovre. Alors Talleyrand est chargé de négocier cette alliance, il en est content. Pitt, le ministre anglais, est mort, et celui qui lui succède, c'est Fox. Seulement, il y a un hic. La Grande-Bretagne, elle est alliée à la Russie. Et quand le tsar apprend les tractations, il envoie à Paris un émissaire, le baron Doubril, et ce dernier doit surveiller les pourparlers anglo-français. Talleyrand s'en empare, l'enveloppe de politesse flatteuse, et le conduit à signer un traité de paix séparé. L'Angleterre est soulagée, envoie à Paris deux plénipotentiaires, Yarmouth et Lauderdale. Tous présentent au mieux, mais hélas, des incidents très graves se jettent en travers des négociations. Et d'où le coup vient-il ? De la Prusse. L'ambassadeur prussien apprend la restitution du Hanovre à la maison d'Angleterre. Hein, Napoléon l'a admis. Alors le gouvernement de Berlin se croit joué, et en réalité, l'empereur cherche une compensation pour la Prusse. Alors il lui propose, si elle perd le Hanovre, il lui propose de fédérer les petits États allemands sous sa direction, comme lui, il vient de le faire avec 15 princes allemands sous le nom de Confédération du Rhin. La cour de Prusse devient folle furieuse, et alors les négociations anglaises, où est-ce qu'elles en sont ? Eh bien, Fox vient de mourir. Les Anglais traînent des pieds pour finalement se dérober complètement. Alors la Prusse s'apprête à déclarer la guerre, pas contente, et Napoléon s'exclame « Je ne puis avoir aucune alliance réelle avec aucune des grandes puissances. » C'est la vérité. Mais peut-être que Talleyrand, s'il s'était senti libre d'exprimer sa pensée, il aurait pu faire observer à son maître que déjà dès 1805, il avait suggéré une alliance réelle avec l'Autriche et que l'empereur l'avait refusée. Bon, alors la Prusse attaque. Eh bien, hélas pour elle, en quelques jours, elle est complètement battue. Napoléon est à Berlin et il attend Talleyrand pour parler avec lui de l'extension créée par son nouveau triomphe. Alors, chose étrange, la Prusse écrasée met son espoir dans la venue du ministre. Pourtant, Talleyrand n'a jamais été favorable à l'amitié franco-prussienne. Ben, c'est que dans l'affolement de la défaite et dans la terreur qu'inspire la colère de l'empereur, le cabinet prussien se dit « Finalement, ça ne peut pas être pire. Si Talleyrand arrive, il arrivera peut-être à modérer l'empereur. » Eh bien, Napoléon n'est pas du tout disposé à ménager la Prusse. Et il ne permet pas à son ministre de plaider la cause du vaincu. C'est vraiment le moment où Napoléon se trouve à son pinacle. La Prusse écroulée, reste la Russie, qui déjà précipite ses armées. Où donc ? En Pologne. Alors pourquoi la Pologne ? C'est parce que cette pauvre Pologne, elle n'existe plus. Elle a été divisée en trois morceaux. Un morceau a été pris par la Prusse, un morceau a été pris par la Russie et un morceau a été pris par l'Autriche. L'empereur français donc est persuadé qu'il en viendra à bout rapidement et alors il pourra s'occuper de l'Angleterre en organisant quoi donc ? Un blocus, c'est-à-dire que personne sur le continent ne fasse commerce avec l'Angleterre. Et rien n'est plus opposé aux vues de Talleyrand. Et pourtant, comme d'habitude, il se résigne. On trouve sa signature en bas du décret qui établit le blocus continental, une entreprise très gigantesque, tout à fait extravagante et qui finalement ne va pas réussir. Dans le décret, Talleyrand glisse une phrase qui, d'après lui, peut être interprétée un jour comme une condamnation de la mesure prise. Il se crée une fois de plus un alibi. Alors ceci établi, Napoléon fait donc venir Talleyrand à Berlin, aussi pour le consulter au sujet des questions que pose la nécessité d'aller en Pologne chercher l'armée russe. La pauvre Pologne, dont je vous dis, elle a complètement disparu de la carte, dépecé en trois morceaux. Pour l'instant, Napoléon exprime sa sympathie pour les Polonais, mais il n'a jamais pensé jusque-là à être le libérateur et le restaurateur de la Pologne. Il tient le raisonnement suivant. S'il impose à la Prusse de rendre le morceau qu'elle a pris, les deux autres morceaux pris par l'Autriche et la Russie, à ce moment-là, ils voudront leur liberté. Là, leur promettre ou les laisser espérer constituerait alors pour la France une décision grave, car ce serait exaspérer qui donc ? L'Autriche et la Russie. Or, s'il veut mener à bien le blocus continental, Napoléon a besoin d'alliés. C'est compliqué, hein ? Alors, eh bien, l'empereur veut avoir la vie de Talleyrand. Tout d'abord, il semble disposé à redonner vie à la Pologne. Il tient le raisonnement suivant. Nous allons proposer à l'Autriche qu'elle rende la Galicie, c'est-à-dire le morceau de Pologne qu'elle avait prise. En échange, on lui donne la Silésie que Frédéric II de Prusse avait prise. La France ferait d'une pierre deux coups. Opposer Vienne à Berlin en enrichissant l'Autriche de dépouiller aussi la Prusse qui a été vaincue. Alors pour Talleyrand qui n'aime pas la Prusse, pas plus la Russie d'ailleurs, c'est faire d'une pierre trois coups. Le jour où l'Autriche aura consenti à troquer son morceau de Pologne contre la Silésie, qu'importera la colère de la Russie ? Alors Talleyrand est si persuadé que l'Autriche se prêtera à la combinaison qu'il voit là un point de départ vers une alliance. Donc le 28 janvier 1807, le prince de Bénévent adresse à l'empereur un long rapport en ce sens. Depuis le 19 décembre, Napoléon, lui, est à Varsovie, et Talleyrand aussi, pour rencontrer évidemment l'armée russe. Ce dernier, Talleyrand, donc, donne une grande fête où se côtoient les généraux français et les représentants de la noblesse polonaise. Et c'est lui, Talleyrand, qui jette dans les bras de l'empereur Marie Walewska, une comtesse polonaise, parce qu'il espère que ça va adoucir le caractère de l'empereur et apaiser sa soif de conquête. Alors, il est tout à fait enchanté, Napoléon, il aura même un fils avec cette personne-là, mais l'histoire de la Pologne, ça va tomber à l'eau. Alors, l'empereur, donc, va se battre contre les Russes, là, qui sont en Pologne, et il demande à Talleyrand d'être en même temps que son ministre, son intendant. Il lui dit, par exemple, « Envoyez-moi du riz et de l'eau de vie. » Alors, pour l'instant, la mission diplomatique de Talleyrand, c'est de maintenir l'Autriche dans la neutralité pendant qu'on est en train d'attaquer les Russes. Et l'affrontement est difficile. Dans la dernière semaine de décembre, les combats sont âpres et meurtriers. Et Napoléon, il ne s'attendait pas du tout à trouver des soldats russes aussi braves et aussi acharnés. S'y ajoutent bien sûr les rigueurs du climat. On y repensera pour la retraite de Russie. L'armée française est dans un état inquiétant. Les Russes sont tout de même battus et se retirent de la Pologne. Mais c'est une victoire sans lendemain. Nous allons faire une dernière pause musicale. Donc nous venons de battre les Russes, une victoire qui en est à moitié une. Et il dit, mais si sur ces entrefaites, l'Autriche se laissait entraîner par Londres et Saint-Pétersbourg pour une revanche d'Austerlitz. Alors Talleyrand est chargé de décourager l'Autriche. Il est bien vu à Vienne, Talleyrand, et l'idée lui plaît. L'Autriche lui envoie donc un émissaire, le général baron de Vincent, qui est d'origine lorraine. Il est reçu très cordialement par Napoléon, qui termine l'entretien par... Nous finirons par une alliance, à l'étonnement donc de l'Autrichien, parce que jusqu'à présent, Napoléon n'en a pas voulu. Alors que les négociations sont en route, soudain, les Russes attaquent. Le 22 janvier, l'empereur quitte donc Varsovie et se jette sur les Russes. Le 8 février, c'est encore une victoire française, c'est la victoire d'Eylau. L'Autriche propose alors un congrès avec la Russie et l'Angleterre, et ce congrès-là fonderait la paix. Talleyrand continue de harceler le ministre autrichien pour une alliance. Il se rend compte finalement que l'Autriche veut empêcher la résurrection de la Pologne. Alors pour avoir l'alliance de l'Autriche, eh bien Talleyrand abandonne la Pologne et voilà comment on retourne sa veste. Le prince de Bénévent donc commence à se détacher de Napoléon. Il voit qu'une suite de victoires n'apporte finalement rien de solide. Et si l'empereur qui donne de sa personne dans les combats se faisait tuer, l'Europe tout entière à ce moment-là refluerait sur les terres conquises, puis sur les nouvelles limites de la France, et peut-être même entrerait en France. Talleyrand est toujours à Varsovie. L'empereur le rappelle près de lui, là où il se trouve, c'est-à-dire à Finkenstein, où il prépare l'attaque des Russes avec une armée qu'il a reconstituée. Le 17 juin, c'est l'écrasement des Russes à Friedland. Talleyrand félicite Napoléon tout en lui glissant un avertissement sérieux. Il espère que c'est la dernière victoire. En fait, il est en colère parce qu'il voit bien que l'empereur va proposer l'alliance russe au lieu de l'alliance autrichienne, l'Autriche ayant lambiné dans les tractations. Napoléon appelle Talleyrand donc à Tilsit. Tout le monde espère qu'il arrivera à convaincre l'empereur de faire un traité pour une paix durable. L'idée de l'empereur, lui, c'est de s'allier avec les Russes. Donc, il ne va rien exiger du vaincu. Et peut-être même qu'il donnerait au tsar la Finlande, au sud, la Moldavie et la Valachie. Au besoin, on va même sacrifier la reconstitution d'un royaume de Pologne. Ce ne sont pas les idées de Talleyrand, bien sûr, qui considèrent les Russes comme des barbares. À Tilsit, le prince de Bénévent doit se résigner à n'être finalement qu'un exécutant. Il n'a qu'une tâche, mettre en article ce que les deux souverains ont décidé entre eux, c'est-à-dire Alexandre et Napoléon. Il pense que l'alliance russe va créer à l'empereur plus de tracas que d'aide. Eh bien, finalement, il n'a pas tort. Talleyrand rentre à Paris, ministre placé très au-dessus de ses collègues, ayant reçu une principauté et de nouveaux millions, Talleyrand ne se croit pas assez récompensé. Alors il revendique un titre de grand dignitaire. L'empereur est contrarié parce qu'il avait décidé que jamais les grandes charges ne se cumuleraient avec un portefeuille. Et comme Talleyrand insiste, Napoléon se décide à lui donner une demi-satisfaction en se réservant de la lui faire payer de son portefeuille. Donc Talleyrand est nommé vice-grand électeur. Mais lui, il réclame de rester avec son portefeuille de ministre. Et Napoléon lui dit que non, qu'il doit rendre son portefeuille. Alors il reçoit quand même la coquette somme de 500 000 livres par an pour s'asseoir dans les fauteuils réservés aux altesses sérénissimes. Il n'est plus ministre, mais il est trop intelligent pour se satisfaire de ses honneurs. Pour lui, Napoléon a choisi ce prétexte pour le congédier. C'est une disgrâce finalement qui est mal déguisée. Il a voulu l'écarter des affaires de l'Europe. Alors, que fait Talleyrand? Eh bien, il commence à dénigrer la politique de l'empereur, en petit comité d'abord. Eh bien, curieusement, Napoléon va continuer à l'appeler, mais officieusement dans ses conseils. Il va même le mêler à des négociations délicates. La faute de l'empereur, c'est de ne pas avoir vu la rancune tenace du prince de Bénévent. Il lui donne ainsi l'occasion, lorsque Talleyrand verra des fêlures dans le monument, de les agrandir. Il va intriguer contre Napoléon jusqu'à ce jour de janvier 1809, où l'empereur, ayant ouvert les yeux, va le disgracier pour de bon, j'en parlerai plus tard. Donc les voilà tous les deux à Paris, où Napoléon a une grande idée, supprimer la dynastie des Bourbons en Espagne et mettre cette dernière dans l'inféodation complète du Grand Empire. Depuis 6 ans, l'Espagne est l'alliée de la France, et voilà qu'on découvre qu'elle trahit. Elle attaquerait la France à la première bataille perdue. Le prince de Bénévent est d'accord avec Napoléon, même si plus tard il affirmera le contraire, bien sûr, devant un Chateaubriand et un prince de Breuil complètement outré. Napoléon n'aime pas les Bourbons, il dit que c'est une maison finie. Alors il voit dans cette affaire une occasion d'être rétabli dans la faveur du souverain et il lui dit « c'est épatant, vous devez attaquer l'Espagne ». Donc Napoléon envoie une lettre au château de Valençay et il lui dit « c'est une petite vengeance ». Il lui dit « Eh bien, voilà, j'ai réussi à capturer les enfants d'Espagne, et alors plutôt que de les mettre en prison, je vous les envoie dans votre château de Valençay, vous allez les surveiller. » Donc le voilà obligé de prendre soin des Bourbons d'Espagne. Alors il s'incline, mais on sait que pour lui, la vengeance est un plat qui se mange froid, et elle va venir. L'Espagne tout entière se soulève, l'Angleterre, appelée par les insurgés espagnols, leur donne des troupes et cherche à constituer une nouvelle coalition. La Prusse tourne les yeux vers l'Autriche, qui réarme pour une revanche d'Austerlitz. Le tsar fait semblant d'être attristé de la situation de Napoléon. Ben oui, Napoléon, il sent que son allié, finalement, le tsar fléchit. Si bien qu'il veut le rencontrer pour affirmer l'alliance franco-russe. Rencontre à Erfurt. Il se dit que les discussions vont être difficiles, que son nouveau ministre des Affaires intérieures, qui s'appelle Champigny, ne sera pas à la hauteur. Alors que fait Napoléon ? Eh bien, il sent qu'il ne pourra mieux discuter que s'il avait Talleyrand avec lui. Eh bien, il dit à Talleyrand, venez donc un petit peu à Erfurt. Talleyrand accepte, mais il a une idée derrière la tête. Il pense que Napoléon maintenant extravague absolument, que ce régime court à sa perte. Il est donc prudent de se détacher de cet homme-là, peut-être pas publiquement pour commencer, mais aux yeux de ses alliés, de ses ennemis. Et alors commence la trahison d'Erfurt. D'accord avec le ministre Metternich, qui est un ministre autrichien, Talleyrand entreprend le tsar à part et il lui ment concernant les intentions de l'empereur et sur l'état d'esprit des Français. Le tsar est complètement ébranlé, rencontre l'ambassadeur d'Autriche et lui dit que finalement, il ne va pas l'attaquer, l'Autriche. Napoléon ne se doute pas que pour l'instant, Talleyrand est en train de le trahir. Il voit bien que les choses ne vont pas comme il veut. L'entrevue d'Erfurt est ratée. Le pire est que le tsar emporte chez lui l'idée que Napoléon est trahi par certains des siens, qu'il en informe l'Autriche et de là l'Angleterre. L'Europe a maintenant la certitude qu'un jour viendra où, après une bataille enfin gagnée, elle verra s'écrouler d'un seul coup le grand ennemi. Nous retrouverons Talleyrand dans les prochaines émissions.